Happy Radio, le fil rouge de la semaine. Happy
Radio. Bonjour à toutes et à tous. Du 19 avril au 4 mai 2025, la Dordogne devient le terrain de jeu de tous les amoureux du patrimoine avec l'événement Château en Fête. Pendant plus de deux semaines, près d'une centaine de châteaux du Périgord ouvrent leurs portes pour proposer des animations, des visites insolites, des spectacles, des ateliers et même des dîners aux chandelles. On en parle aujourd'hui avec Maxime Ferrier. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous rappeler un peu votre fonction au sein de Château en Fête ?
Oui, je suis responsable promotion et événementiel.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née l'idée de Château en Fête ?
Bah, écoutez, c'est parti de constats. On avait fait des études et en fait il s'avérait que parfois les visiteurs avaient l'impression de s'ennuyer un petit peu en Périgord pendant les vacances de printemps notamment, et donc du coup la volonté c'était de remédier à ça en créant un événement fort autour d'une image forte que constituent les 1001 châteaux du Périgord, et donc du coup c'est pour ça qu'on a souhaité créer un événement qui rassemble et fédère beaucoup d'acteurs sur tout le territoire, et on a des châteaux partout en Dordogne, donc c'était l'idéal.
C'est vrai qu'on dit souvent que la Dordogne, c'est l'endroit des 1001 châteaux. Combien de châteaux participent cette année donc à cet événement ?
Et bien, cette année, on a encore plus de châteaux que l'année dernière. Donc, on a 94 châteaux vraiment répartis sur toute la Dordogne. Donc, on est bientôt à la centaine. Il y avait un petit peu plus de 80 châteaux l'année dernière. Et on est en constante évolution depuis maintenant 4-5 ans.
Et donc, comment se passe le démarchage des châteaux ? Comment arriver à les faire accepter de venir quelque part ? Parce que c'est bénéfique à tout le monde.
Bah, finalement, je pense pour beaucoup, c'est les châtelains eux-mêmes qui sont, je pense, les meilleurs porte-parole, qui en fait font savoir à leurs homologues que tout se passe bien, qu'en effet c'est vraiment une participation libre, chaque château peut organiser le type d'animation qu'il souhaite, le nombre de fois qu'il souhaite pendant les 15 jours de l'animation. On est assez libre sur tout ça, et donc finalement d'année en année il y a des nouveaux châtelains qui arrivent parce que ils sont séduits par l'idée.
Effectivement, très libre. On a vu plein d'activités différentes, notamment sur le site. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des idées d'activités qu'ont eu ces châtelains et qu'on va pouvoir retrouver pendant ces deux semaines ?
Alors, il y a vraiment toutes sortes d'activités qui peuvent plaire vraiment à tous les profils. On a bien sûr des visites, mais qui sont souvent, et c'est tout l'intérêt de l'événement, qui sont souvent des visites guidées par les propriétaires eux-mêmes. Et comme on a un fort pourcentage de propriétés privées qui ne sont pas forcément ouvertes habituellement au public, là c'est vraiment un des principaux intérêts de l'événement, c'est de découvrir, de franchir les portes de certains châteaux qui sont habituellement fermés. Et après voilà, on a des animations de type plutôt patrimoine, culturel, mais on a des animations ludiques pour la famille, pour les enfants, des activités en pleine nature aussi, parce que beaucoup de ces châteaux ont quand même des beaux parcs et jardins, et voilà, des activités autour des métiers d'art, des savoir-faire, et aussi bien sûr des activités, des animations de type un peu gastronomique, avec des dîners aux chandelles dans les châteaux avec les propriétaires. Voilà.
Et justement ça, est-ce que c'est nouveau ? Moi quand je l'ai vu, j'avoue que j'étais un peu enchanté, j'avais envie de faire ce dîner aux chandelles, et je pense que nos auditeurs aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé d'apporter dans les nouveautés de cette année ?
Alors vraiment ça relève vraiment de la liberté de chaque propriétaire ou gérant de château, et on en a de plus en plus parce que ce sont justement des moments conviviaux. Bon, bah tout ce qui est gastronomique, souvent ça rassemble les gens. Et puis l'idée, je pense, de manger au château avec le propriétaire, comme si pendant l'espace de quelques heures on était propriétaire soi-même du domaine. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose que le public recherche, un moment vraiment unique, une expérience assez rare. Et donc du coup, c'est vrai qu'on en a, on a pas mal de châteaux qui proposent ce genre de moment. Alors un dîner, ça peut être aussi un apéritif. Enfin voilà, un moment convivial où on mange un petit quelque chose, et puis voilà.
On l'entend dans votre voix, vous avez l'air d'aimer vraiment les châteaux. J'imagine que vous en avez certains qui sont très connus, d'autres un peu moins. Est-ce que vous avez des petits coups de cœur personnels qu'un château que vous auriez aimé particulièrement ?
Alors écoutez, je veux pas faire de tort à justement l'ensemble de ces châteaux, et donc non, j'ai pas vraiment de coup de cœur vraiment personnel. Après on a 17 nouveaux châteaux cette année. On a par exemple le château de Fayolle à Tocane, qui est un nouveau site de visite. qui avait été pendant quelques années un petit peu délaissé, on va dire, et qui n'était pas une demeure que l'on visitait. Et donc cette année, ils lancent vraiment, c'est leur ouverture officielle au public. Donc c'est par exemple un petit coup de cœur si vous. Mais on a ce qui est vraiment le succès aussi de cet événement, c'est la grande disparité de types de châteaux. On a toutes sortes de châteaux, bien sûr médiévaux, renaissance, mais on a des gentilhommières, des manoirs, vraiment des propriétés privées, parfois c'est des lieux publics, par exemple le château de Saint-Olé, c'est la mairie qui occupe une partie du château. On a aussi par exemple le château de Bassy près de Mussidan, qui en fait accueille un centre de soins et de réhabilitation médicale. Et donc, on a vraiment une grande diversité de châteaux et c'est, je pense, ce qui séduit le public.
C'est vrai que l'événement a l'air d'être là aussi pour valoriser les lieux qui sont souvent privés ou moins accessibles, comme vous avez dit. Est-ce qu'il y a une organisation particulière pour mobiliser ces sites-là, justement ?
Écoutez, nous, notre rôle au comité du tourisme, c'est d'essayer de fédérer, de rassembler tous ces acteurs. Alors, on essaie bien sûr de se réunir une ou deux fois par an, généralement justement dans un des châteaux, pour discuter, faire un petit peu le bilan des années précédentes, voir ensemble comment on peut faire évoluer les choses. Et puis, après, on essaie d'échanger, de dialoguer avec eux tout au long de l'année pour être à l'écoute, pour faire de notre mieux pour valoriser justement ces demeures et leurs animations. C'est en cela où on a conçu un site internet dédié à l'événement qui s'appelle châteauenfête.com, où vraiment chaque château est présenté individuellement. Donc, on essaie de co-construire tout ça ensemble.
C'est vrai, on le rappelle, l'événement se passe donc du 19 avril au 4 mai. C'est une belle période au niveau des températures. Normalement, ça revient en bonne flèche, pardon. Est-ce que vous avez sûrement des touristes ou plus de gens du coin ? Qu'est-ce qui vient le plus chez vous ?
Alors, l'événement fonctionne très bien auprès du public local. C'est vrai que le plus fort... on va dire profil de visiteurs, c'est les habitants de Dordogne, mais on a de plus en plus et d'année en année, on a de plus en plus de visiteurs des départements limitrophes et de la région, qui du fait que l'événement commence à s'installer et à être connu. Nous, on travaille en ce sens, en axant toute notre campagne de promotion et de communication au niveau régional. On fait par exemple de l'affichage dans pas mal de gares régionales, allant de Bordeaux jusqu'à Toulouse, La Rochelle, Brive, etc. Donc, petit à petit, l'événement est de plus en plus connu et arrive à attirer des visiteurs au-delà de nos frontières. Et c'est aussi, bien sûr, un des objectifs, c'est de faire en sorte qu'il y ait sur cette avant-saison, puisque c'est aussi l'objectif de l'événement, de lancer la saison touristique au mois d'avril, donc que pendant ces vacances-là, il y ait des visiteurs qui viennent.
Vous avez remarqué qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient donc pour cet événement au fur et à mesure des années. Que pour vous, ça représente quelque chose pour le territoire ?
Bien sûr. Alors si un des objectifs, c'est de valoriser vraiment ce patrimoine vivant, derrière, tout l'intérêt, c'est de dynamiser l'activité économique du territoire, que ce soit purement touristique, bien sûr, mais aussi que cela profite à l'ensemble des acteurs de Dordogne. Et donc, on a estimé à 90 000 visiteurs environ en 2024 sur l'ensemble des 80 châteaux participants. Donc, on espère, bien sûr, qu'il y aura toujours plus de visiteurs et puis de retombées économiques qui bénéficient à tous.
On sait que ça attire beaucoup les familles. Par exemple, moi, j'adore y aller avec ma famille, toujours visiter un château, c'est l'activité du dimanche. Est-ce qu'il y a des activités prévues, justement, des animations spécialement pensées pour les enfants, pour les petits cousins, les petits-enfants qui viendraient avec moi ?
Oui, bien sûr. Alors, on tombe pendant la période de Pâques, donc il y aura l'occasion de faire des chasses aux œufs dans des châteaux et dans des domaines assez majestueux. Et après, on a vraiment plein d'activités ludiques du type un peu escape game, murder party. Il y a une murder party par rapport au château de Maraval, qui est un hôtel 4 étoiles du Périgord, mais qui pour l'occasion accueille du public. On a des spectacles de feu au château de Biron. Ce samedi, pour la journée inaugurale à Périgueux, le château Barrière, en espérant que la météo soit clémente, va aussi proposer des visites et des spectacles équestres, de feux, etc. Voilà, il y a vraiment la Tour de Piégu au nord du département propose un spectacle avec les chevaliers de Trincou. Donc voilà, il y a plein d'animations comme ça qui sont vraiment adaptées pour les enfants.
Effectivement, de quoi se faire un sacré programme si on veut tout faire. Bon, j'imagine que c'est pas possible. Mais est-ce qu'il y a un site ou une application pour regrouper toutes ces informations où on pourrait se faire un petit programme, justement, une petite liste de ce qu'on aimerait bien faire?
Oui. Le réflexe, c'est d'aller sur châteauenfaite.com. Il y a la liste complète de tous les châteaux participants, une carte pour les situer, les géolocaliser, et puis que ce soit dans chaque page de château ou bien en général, il y a possibilité de trouver toutes les animations et de filtrer selon certains filtres, selon certains critères spécifiques.
C'est parfait. Un grand merci à vous d'avoir été avec moi malgré les petites contraintes techniques que je vous ai imposées. Pardon. J'espère qu'on vous retrouvera très vite. Et puis je vous souhaite beaucoup de succès, surtout pour Château en fait.
Merci beaucoup.
Et puis on se retrouve très vite, comme je l'ai dit, peut-être l'année prochaine avec le 100e château. Je l'espère que je pourrai le dire cette fois.
Oui, ça serait vrai, pourquoi pas. Ouais.
Merci encore, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis à la prochaine.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Happy Radio, le fil rouge de la semaine. Happy Radio.